بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 115 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Et c'est le cours de Iqtida Sirat al-Mustaqim, donc c'est avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et c'est un des livres de Cheikh al-Islam qui est parmi les meilleurs livres qu'il a fait, c'est-à-dire un livre très très important, très bénéfique, surtout à notre époque, parce que ça parle d'un sujet qui est relié directement avec notre situation et qu'est-ce qu'on vit, hein, surtout par rapport au fait qu'on vit dans une époque de l'histoire de la Ummah qui est une période de faiblesse quand on regarde relativement au passé, et puis aussi le fait que c'est aussi le fait que beaucoup de musulmans vivent dans des pays européens, américains et tout, dans des pays non musulmans, où ils font face à toutes sortes de défis, dans le sens qu'ils sont obligés de gérer toutes sortes de situations, parce qu'ils vivent entourés de kuffar en tant que minorité. Donc il faut savoir par rapport à ça, comment on doit agir, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, et puis savoir aussi qu'est-ce qui est obligatoire pour nous. Est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct? Beaucoup de musulmans maintenant, ils sont en train de se perdre. Hein? Et juste dernièrement, là, c'est ça que les gens, ils me disent des fois, j'apprends tout le temps des nouvelles choses par rapport à des situations que les musulmans vivent. Et puis, à chaque fois que j'entends une nouvelle situation, ça vient rajouter encore plus de conviction, puis de certitude à qu'est-ce que je pense, tu vois, dans le sens que les musulmans qui vivent dans une société qui n'est pas musulmane, eh ben c'est comme s'ils se mettent en danger par rapport à leur croyance et à leur foi. Un de mes amis est décédé, rahimahullah, la semaine passée. Je n'ai même pas su ça. Hein? Il est décédé, je pense, pendant la semaine. En tout cas, il a été enterré. Son corps a été envoyé au Sénégal. Et je n'ai même pas su. C'est après que j'ai appris ça. Et supposément, ils ont exposé son corps pendant quelques jours, je ne sais pas quoi. Donc, toutes sortes de pratiques que les gens font maintenant, qui sont contraires à l'islam. L'exposition du corps dans les salons funéraires, des trucs comme ça, tu vois, ça c'est des trucs que les chrétiens font, les juifs font, mais nous dans l'islam ça n'existe pas, hein. Mais petit à petit, à force de vivre parmi les non-musulmans, on commence à adopter leur façon de faire les choses, leur façon de vivre, qui sont contraires à l'islam, puis des fois on s'en aperçoit même pas. Et même parfois, certains considèrent que c'est ça qui est normal, hein, parce qu'ils ont été tellement programmés à penser à la façon occidentale que c'est devenu la norme pour eux. Donc, c'est très important des livres comme ce livre-là, Iqtida Sirat al-Mustaqim, pour justement nous faire comprendre, nous faire réaliser ça. Et les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, franchement, c'est des mines d'or, ces livres-là. Tous les livres qu'on fait maintenant, Al-Furqan, Al-Ubudiyya, on a fait Al-Wasiti, on a fait Al-Hamawiyya, on a fait plusieurs des livres de Cheikh al-Islam. Tous ces livres-là sont remplis de règles, de principes, de fondements, de preuves du Coran, de la Sunna et tout ça. Il y a dans ça des leçons inestimables, et puis c'est tellement important de les étudier. Alhamdulillah, les ulama, ils nous ont facilité ça à notre époque, hein? Parce qu'à l'époque, moi je me rappelle, on lisait ces livres-là, on pouvait parfois trouver des explications des ulama de ces livres. Et parfois, il y avait des explications audio. Maintenant, ces explications-là, plusieurs sont mises maintenant par écrite, sous forme écrite. ça facilite beaucoup la consultation puis la recherche. C'est vraiment bénéfique. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Donc, on va lire maintenant l'endroit où on était rendu. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il était en train d'expliquer que il est interdit pour les musulmans d'imiter les shayatins. D'imiter les shayatins. Et il expliquait que, en ce qui concerne les bédouins, par exemple, les bédouins et les étrangers, c'est-à-dire ceux qui sont pas musulmans parmi les mouchriquins, étrangers non arabes, il expliquait que ces termes-là, comme bédouins et les non arabes, que c'est pas des termes qui sont blâmables en soi, hein, parce que parmi eux, il peut y en avoir des croyants. Hein? Et donc il expliquait que c'est, et c'est ça qu'on explique, on continue d'expliquer ça, d'imiter les shayatins. On est interdit d'imiter, de ressembler au diable, shayatins, que ce soit shayatins al-ins, shayatins al-jinn ou shayatins al-ins, les diables humains ou les diables djinns, on n'a pas le droit de les imiter. Et dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ne faites pas ça. Parce que ça, c'est l'exemple des shayatins. C'est les shayatins qui font ça. Comme s'ils ne mangeaient pas avec la main gauche. Parce que c'est le diable qui mange avec la main gauche. Donc celui qui mange avec la main gauche, il imite le shaytan. Hein? Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, des hadiths comme ça, que le cheikh il a cité justement pour qu'on sache qu'on ne doit pas faire ces choses-là. Donc ça fait partie des exemples. C'est-à-dire, on a déjà parlé de ça dans les cours précédents. Là, maintenant, on avance. On continue. Le Cheikh dit, وفي حديث آخر رويناه بإسناد صحيح من حديث سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثني أو قال حدثنا من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم عز وجل واحد ألا وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى ألا قد بلغت قالوا نعم قال ليبلغ الشاهد الغائب وروي هذا الحديث عن أبي نضرة عن جابر. Donc ça c'est un hadith important qui fait partie des narrations qui sont reliées au discours d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khutbat al-wada'. Et ici, c'est mentionné, ce hadith-là, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad dans la Musnad, également par Abi Nu'aym dans Al-Hilya, et il dit que ils ont été témoins de la khutbah, du sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mina pendant les jours de Tashriq, alors qu'il était sur un âne ou sur une mule, et il a dit « Ô vous les hommes !» Certes, votre Seigneur est il est unique. Votre Seigneur, il est un. Et votre Père est un. C'est-à-dire Adam, alayhi salam. Il n'y a pas de mérite à un arabe sur le nom arabe. Et il n'y a pas de mérite au noir sur le rouge. Hein, excepté par la piété. Il a dit, n'est-ce pas que j'ai transmis Allah qad ballagt, c'est-à-dire n'ai-je pas transmis le message. Donc il demande à Allah d'être témoin, ainsi qu'aux compagnons d'être témoin qu'il a transmis le message. Il dit, ils ont répondu oui. Hein, ils ont répondu oui. Et il dit, قال ليبلغ الشاهد الغائب, c'est-à-dire que la personne qui est présente, qui est témoin, transmettre à celui qui est absent. D'accord? Et donc ça c'est rapporté, ce hadith, selon Abi Nadra, selon Jabir. Il dit, maintenant Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là. Il dit, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alga هذه العبية وهذا التفاخر والتطاول على الناس بغير حق وأرجع الأمر إلى التقوى وهذا كما في الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقد خطب بذلك صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. Donc le cheikh dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a éliminé et détruit cette fierté, cette idée que les gens se sentent supérieurs à d'autres à cause de leur couleur ou de leur origine, hein, de façon injuste. Et il a ramené toute l'affaire à la piété, à taqwa. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans Surat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, inna akramakum, pardon, c'est Surat Al-Hujurat, inna akramakum inda Allahi atqakum. Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux pour Allah. Hein? Le plus noble pour Allah, c'est le plus pieux. Hein? Et il a mentionné ce principe-là dans son sermon, hein, lorsqu'il a fait le Hajj d'adieu. Et il dit, وَذَلِكَ حِنَمَا خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَعِ فِي ثَانِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَّمَ فِيهَا النَّاسِ أَحْكَامَ النَّفَرْ مِنْ مِنَى وطواف الوداع وأوصاهم صلى الله عليه وسلم بعدة وصايا ومن ذلك أنه أبطل ما كانوا يعملونه في الجاهلية فقد كانوا يحجون ويجتمعون في منى لا لذكر الله عز وجل وإنما لذكر آبائهم كل يفتخر بآبائه وقبيلته في منى والرسول صلى الله عليه وسلم أبطل هذا التفاخر بالآباء والله جل وعلا يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فأبطل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه العادة الجاهلية عادة اتخاذ الحج لأجل التفاخر بآبائهم وقبائلهم وتعداد محاسنهم وأمرهم بذكر الله عز وجل بدلا من ذلك لأن الحج إنما شرع لأجل ذكر الله ولم يشرع لأجل التفاخر بالآباء والأجداد والأحساب والأنساب لأن هذا كله من شأن دين الجاهلية. Donc le cheikh il explique que ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait son discours d'adieu pendant le hajj d'adieu dans le deuxième jour parmi les jours du tashriq et il a enseigné aux gens les règles, hein, en ce qui concerne le fait de partir de Mina et les règles du tawaf al-wada', le tawaf d'adieu, et il leur a donné en même temps quelques consignes à respecter et à suivre et quelques règles dans la religion. Et parmi les règles, il a mentionné justement qu'il n'y a pas de différence dans l'islam entre les différentes personnes de différentes origines, de différentes couleurs, hein, et que tout revient à la piété. Hein? Et il a détruit cette pratique que les mouchriquins dans la jahiliya avaient l'habitude de faire lorsqu'ils faisaient le hajj et qu'ils se réunissaient à Mina. Ils se rappelaient de leurs ancêtres et de leurs pères et de leurs tribus et ils commençaient chacun à vanter, hein, leurs tribus et leurs ancêtres quand ils étaient à Mina. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annulé et a détruit cette tradition des Arabes de l'époque, et il a annulé donc le fait de se vanter de nos ancêtres et des choses de ce genre. Et il a mentionné ça justement dans, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça dans le vers, dans les versets 198 à 202 dans Surat Al-Baqarah. Donc on va les lire ensemble, puis on va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala il a annulé cette pratique des Arabes. Il dit le verset qui est cité, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ, le verset 98, puis quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à l'endroit qu'on appelle Al-Mas'al al-Haram, et c'est Muzdalifa, invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Puis ensuite déferlez par là où les gens déferlent et demandez pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allah comme vous invoquez vos pères, ou plus ardemment encore. Hein? Invoquez Allah comme vous invoquez vos pères, hein? Ou comme vous invoquez vos pères, ou plus ardemment encore. Parce que les Arabes, à cette époque-là, à ce moment-là, à Mina, ils faisaient la mention de leurs ancêtres, et ils se vantaient de leurs ancêtres et de leurs tribus. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, puis quand vous aurez achevé vos rites, invoquez Allah au lieu d'invoquer vos pères et vos ancêtres, invoquez Allah plus ardemment encore que ce que vous faisiez lorsque vous glorifiez vos ancêtres. Il dit, mais il y a des gens qui disent seulement, Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas, pour ceux-là nulle part dans l'au-delà. Et il y a des gens qui disent, Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis, et Allah est prompt à faire rendre des comptes. Donc, après avoir cité ce verset, ces versets, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a donc détruit et annulé, ainsi que son messager, cette tradition de la jahiliya, hein, qui fait que les gens utilisaient le hajj dans le but de se vanter et de vanter leurs ancêtres et leurs tribus, et d'énumérer tous les qualités et les belles choses que leurs tribus ont fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donc ordonné de cesser de faire ça. Et il leur a ordonné de faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala à la place de ça. Et il dit que le hajj a été uniquement légiféré dans le but de se rappeler d'Allah et de faire le rappel d'Allah et son invocation et sa glorification. Il n'a pas été légiféré dans le but de nous vanter de nos ancêtres, de nos pères, hein, ou bien de parler de notre lignée, de notre généalogie ou des choses de ce genre. Tout ça, ça fait partie des pratiques des gens de la jahiliya et de la religion de la jahiliya. Ensuite, le shaykh il dit, وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ الَّذِي يُحَاوِلُ أَنْ يَتَّخِذَ الْحَجِّ وَسِيلَةً لِلْمُظَاهَرَاتِ وَإِظْهَارِ الْفَخْرِ عَلَى الْآخَرِينَ وَيَغْتَنِمُ اجْتِمَاعَ النَّاسِ فِي الْحَجِّ لِأَجْلِ مَدْحِ دَوْلَتِهِ أَوْ مَدْحِ مذهبه أو مدح رئيسه أو ما أشبه ذلك فإنما فعل شيئا من أمور الجاهلية. Donc le cheikh il fait un parallèle avec des choses qui peuvent parfois se produire aujourd'hui. Il dit, ceux qui aujourd'hui parfois essaient de prendre le hajj comme un moyen pour faire des manifestations, ou pour montrer la fierté qu'ils ont sur les autres, ou bien pour utiliser cette réunion, hein, ou ce rassemblement de gens dans le hajj dans le but de glorifier leur pays, ou de glorifier leur voie, leur école, ou de glorifier leur chef ou leur dirigeant, ou des choses de ce genre, il dit, ce qu'ils font, ça ne fait que partie des exemples des choses de la jahiliya. il dit fal aslu fil muslimin annahum ya'budun Allah azza wa jal rabban wahidan wa yataqarrabuna ilayhi wa yadhkurunahu fi hadhihi al-masha'ir al-'azima wa la yadhkuruna ma'ahu ahadan min al-aba aw min ar-ru'asa aw min al-muluk aw min al-bilad وما شابه ذلك من التفاخر بالأحساب والأنساب فهو كله من أمور الجاهلية وقد أذهبه الله من المسلمين فالحج إنما هو اجتماع لذكر الله عز وجل وعبادته والتفقه في دينه واجتماع كلمة المسلمين وهذا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة وقال ليبلغ الشاهد منكم يعني الحاضر عند خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم الغائب يعني عن هذه الحجة أو من يأتي من الأجيال وهذا جار إلى يوم القيامة وهذا ليس خاصا بالذين حضروا الخطبة فحسب وإنما هو عام للمسلمين على مر الزمان وفيه أن من تعلم شيئا من العلم وعرف شيئا من الأحكام الشرعية أنه يبلغه لغيره ولا يكتمه. Donc le cheikh il dit que la base pour les musulmans c'est qu'ils adorent Allah Azza wa Jal, un Seigneur unique, et qu'ils se rapprochent de lui et qu'ils l'évoquent et qu'ils le mentionnent et qu'ils le glorifient dans ces endroits yani bénis, dans ces grands lieux d'adoration, et qu'ils se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils mentionnent Allah seul. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire la mention de leurs parents, de leurs ancêtres, de leurs dirigeants, de leurs rois ou de leur pays ou des choses de ce genre dans le but de se vanter de leurs ancêtres ou de leur lignée ou des choses de ce genre. Tout ça fait partie des affaires de la jahiliya. Et Allah l'a éliminé, Allah a enlevé ces choses-là et a interdit ces choses-là. Donc le hajj, c'est juste un endroit pour se réunir, pour se rappeler d'Allah et pour l'adorer et pour apprendre notre religion et de se réunir pour unir la parole des musulmans, hein, unifier la parole des musulmans. Et ça fait partie de ce à quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enjoint les musulmans dans cette khutba, lorsqu'il a dit et que la personne qui est présente parmi vous, hein, qui a assisté à cette khutba, la transmette à celui qui était absent, c'est-à-dire qui n'était pas présent dans ce hajj, ou bien dans les générations qui vont arriver plus tard parmi les musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Et il dit c'est pas spécifique à ceux qui ont été présents et qui ont assisté à la khutba seulement, mais c'est général pour tous les musulmans jusqu'à la fin des temps. Et il y a dans ça également l'enseignement de la science à celui qui, yani, disons, il a appris quelque chose de la science et des règles de la religion, il a le devoir de les transmettre hein, à ceux qui ne les avaient pas apprises, et à ne pas les cacher aussi. C'est-à-dire de ne pas cacher les règles de la religion et de les apprendre aux autres et de les transmettre. Donc ça c'est extrêmement important de faire ça, d'enseigner et de transmettre la religion d'Allah. Vous savez que les musulmans ils ont une grande richesse, hein, ils ont une grande richesse dans la science qu'ils ont transmis au sujet de la religion, le Coran et les livres de science de l'islam, les livres de hadith et tous les livres de aqidah, les livres de tafsir et les livres de fiqh et ainsi de suite. Et comme Cheikh Ibn Uthaymin, je me rappelle une fois j'ai lu dans un de ses livres, il expliquait un point qui est très important. Il disait si quelqu'un par exemple il veut combattre, puis il a un endroit par exemple où il a emmagasiné un grand nombre d'armes, hein, mais qu'il les laisse dans cet endroit-là, dans ce hangar, il laisse les armes à l'intérieur et puis il les utilise pas, il les prend pas, il n'apprend pas comment les utiliser, comment il va être capable de, hein, de profiter de ce qu'il peut faire avec ces armes-là. Ça ne sert à rien. C'est juste des choses qu'il a mis dans un hangar, dans un endroit, il les a réunis là-bas, il ne les utilise pas, il ne s'en sert pas, il ne se pratique pas, il ne fait rien. Donc il dit ça ne sert à rien. Il dit les gens qui ont des livres, ils ont des bibliothèques, hein? Il dit ces livres-là, ça c'est tes armes pour combattre le kofre, pour combattre le shirk, pour défendre la vérité, pour défendre le tawhid et la sunna et l'islam. Les ulama de l'islam, ils se sont donné la peine de d'écrire ces livres-là pour les générations futures, pour être capable justement de préserver cette religion et de la défendre. Nous, on a des livres, ces livres sont dans des bibliothèques, on les ouvre pas, on les utilise pas, on les étudie pas, on les apprend pas, hein? Puis par la suite, on pense que la religion, elle va se défendre toute seule. Hein? Non, c'est pas comme ça. Les livres, c'est comme des armes que quelqu'un, il a plein d'armes, il les utilise pas pour se défendre contre son ennemi. Hein? Alors, comment il va être capable de repousser son ennemi si son ennemi l'attaque? Et toi, tu as des livres. Et les koufars, les mouchriquins qui veulent faire jeter des ambiguïtés, des doutes et appeler au kufr, toi, tu as la connaissance qui est disponible, mais tu l'ouvres. Tu ouvres pas les livres, tu fais pas d'efforts pour étudier, tu fais pas d'efforts pour apprendre. À quoi ça sert ces livres-là, alors? Ces livres-là, dans ce cas-là, ça sert à rien. Hein? Et combien tu vois de musulmans qui donnent vraiment d'importance à la science islamique et à vraiment étudier leur religion? Comme si, quand ils passent devant une bibliothèque, ils regardent les livres, pour eux, c'est juste une belle décoration, ça s'arrête là. C'est pas plus que ça. Hein? Ils vont pas prendre le livre pour le lire, pour profiter de la science qui est dedans. Yani, subhanallah. Donc, il faut vraiment, prendre cette science et l'utiliser et l'employer et faire quelque chose de bénéfique avec, la transmettre aux autres. Si tu la transmets pas, cette science, les gens l'oublient. Bien sûr que c'est bénéfique de venir puis de profiter. Mais ça aussi, ça fait partie, inshallah, j'espère, d'un effort minime dans le but de faire en sorte que cette science-là soit transmise, hein, qu'elle soit utile. Hier, je discutais à la maison, ma femme, elle me disait qu'elle a entendu une faïda par rapport à un hadith dans Riyad al-Salihin, du fait que lorsque parfois des gens sont réunis et qu'ils font quelque chose qui est un péché, d'accord, et que parmi eux il y en a qui sont des gens de bien, mais ils périssent avec ceux qui font le mal parce que ils sont avec eux à ce moment-là. Lorsque la colère d'Allah tombe sur eux, ou le châtiment d'Allah tombe, ils périssent avec les autres. Pourquoi? Même s'ils sont bons, ils périssent avec les autres parce qu'ils étaient présents avec eux. Mais, le contraire est vrai aussi. Des fois, si des gens sont réunis pour faire du bien, et que parmi eux, il y a des gens mauvais, ou des gens du mal, eh bien, ils reçoivent de la miséricorde d'Allah et de sa bénédiction qui tombe sur eux, et ils en profitent malgré qu'ils ne font pas partie des gens du bien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient présents parmi eux à ce moment-là. Donc, de la même manière que le châtiment peut tomber sur des gens qui ne méritent pas, hein, eh bien, la bénédiction et la miséricorde aussi peut tomber sur ces gens-là. Ça encourage à venir s'asseoir dans les cercles d'études et dans les mosquées et dans les lieux de bénédiction pour justement profiter. Arrête. C'est pas le temps de manger là. Hein? C'est quoi? C'est quoi ça? Non mais déjà un là, il faut arrêter de manger trop de gâteaux, mon frère. T'es jeune, hein? Il faut que tu fasses des efforts pour rester en bonne santé, pas comme pas comme les autres, là, comme moi et d'autres, malheureusement. Non, je comprends que tu as faim, mais il y a un temps pour manger, il y a un temps pour pas manger. Hein? Non, ça fait partie de l'adab. Adab, dars. Ça, ces choses-là, c'est comme, ça fait partie des bonnes manières. Quand tu t'es assis dans un dars, tu peux pas manger devant le professeur, ça se fait pas. Hein? Peut-être à l'université, tu peux faire ça, le professeur, ça ne le dérange pas. Mais quand tu viens pour apprendre la religion d'Allah dans la mosquée, tu ne vas pas manger pendant que le cheikh il donne le dars. Ce n'est pas possible. Boire de l'eau, ça peut aller. Mais manger, non, ça ne se peut pas. Ce n'est pas correct. Il y a des chouyouk là, peut-être eux, ils vont être très, très stricts sur des choses comme ça. Ils vont te dire, va-t'en, sors. Si tu veux manger, va manger. Hein? Puis quand tu vas revenir, tu vas écouter le dars. Parce que tu ne peux pas faire ça, c'est pas respectueux pour le dars. Hein? Barakallahu fi. Non, je comprends. T'as pas eu de mauvaises intentions. Je pense que c'est pas pour le mal, mais c'est juste comme pour qu'on se donne certaines manières à respecter, hein, pour qu'on montre que cette science là, elle a un certain respect pour nous, hein, dans le sens qu'on a un certain respect pour cette science. Donc on doit adopter un certain comportement. Oui, on fait kabarak. Ensuite, le cheikh il a cité un autre hadith. Il dit wa fi sahihayn an Amr ibn al-As radiyallahu anhu anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam qala inna ala fulan laysu li bi awliya innama waliy Allah wa salihul mu'minin wa akhbara sallallahu alayhi wa sallam an batnin qaribin an-nasab أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياءه وإنما وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف. Donc ça c'est un hadith qui est très intéressant aussi. Dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Amr ibn al-As radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit telle famille ou telle personne, hein, la famille d'un tel, ils ne sont pas mes alliés, hein, sont pas mes alliés, c'est-à-dire c'est pas des gens avec qui je suis allié, c'est-à-dire c'est pas mes défenseurs, puis moi je veux pas être leur défenseur aussi, je suis pas leur leur wali, je suis pas un wali, ils sont pas mes awliya et je suis pas un wali parce que mon wali c'est Allah et les pieux parmi les croyants. Et le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe dans ce hadith-là qu'une des familles, parmi les familles de Quraysh, qui ont un lien de parenté avec lui, ils ne sont pas ses alliés par le simple fait qu'ils sont ses parents, ou qu'ils ont des liens de parenté avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il nous dit que son allié, c'est uniquement Allah et les pieux parmi les croyants, de toutes les différentes origines, de toutes les différentes personnes, sans que ce soit relié avec les liens de parenté ou la famille ou l'origine, le fait qu'ils soient arabes ou de la tribu de Quraysh ou des choses de ce genre. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique ce point-là maintenant, il élabore sur ça. Il dit « An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ihda khutabihi » قال إن آل فلان يعني من أقاربه من بني هاشم أقرب الناس إليه في النسب ليسوا لي بأولياء أي ما داموا كفارا فهم ليسوا أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانوا من نسبه وأقاربه وإنما ولي الله وصالح المؤمنين وهذا كما أمره أن يقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وقال عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فالولاء والبراء إنما يكون على هذا الأساس لأهل الإيمان وهو المحبة في القلوب التي المحبة في القلوب والتي تكون لأهل الإيمان من أي جنس والبراء هو البغض في القلوب إنما يكون لأهل الكفر وإن كانوا من الأقارب. Donc on va traduire jusque là, puis après on va continuer. Le cheikh il dit premièrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans une de ses khutab, un de ses discours, un de ses sermons, que telle ou telle famille de, parmi ses proches, ceux qui font partie de par exemple Bani Hashim, sont la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est des gens qui sont parmi les plus proches de lui dans les liens de parenté, il a dit ils ne sont pas mes alliés, ils ne sont pas des awliya pour moi. Du moment qu'ils sont dans le kufr, qu'ils sont des kuffars, ils ne sont pas les alliés du messager sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils ont des liens de parenté avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit mes alliés sont uniquement Allah ainsi que les pieux d'entre les croyants. Et ça c'est la même chose que ce que Allah lui a ordonné de dire dans le verset 196 dans sourate Al-A'raf. Et on va lire ce verset-là ensemble. C'est le verset dans lequel il dit « Inna waliyya Allah hein? » Certes, mon maître, mon protecteur, mon allié, c'est Allah qui a fait descendre le livre, le Coran, et c'est lui qui se charge de la protection des vertueux. Hein? Et il a cité ensuite le verset 55 dans sourate Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. » Ils font le recours, ils s'inclinent devant Allah. Donc, juste un instant, le cheikh il dit « Falwala ou al-bara » Donc le fait d'aimer et de détester, de s'allier et de se désavouer, ça doit uniquement être basé sur le fondement des gens de la foi. Donc, al-wala, c'est l'amour qui est dans le cœur, hein, c'est l'amour qui est dans le cœur et qui doit être pour tous les gens qui ont la foi, peu importe leur origine. Tu vas dire ton frère, tu dois l'aimer en Allah, qu'il soit musulman du Maroc ou de l'Algérie ou de la Tunisie ou de l'Égypte. Ou de la Libye, ou de l'Afrique, hein, de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le Sénégal, ou Mali, ou autre, ou bien que ce soit de la Turquie, ou du Pakistan, ou de l'Inde, ou de l'Indonésie, ou de la Malaisie, ou même du Japon, ou de la Chine, peu importe d'où il vient, hein, qu'il soit français, italien, ou grec, ou de l'Amérique latine, peu importe. Du moment que c'est un musulman, du moment qu'il croit en Allah et en son messager, du moment qu'il a cru en le tawhid d'Allah, c'est ton frère en islam, c'est ton wali, hein, il est un wali, un allié, hein, et tu dois donc l'aimer dans ton cœur, et même s'il est d'une autre origine ou d'un autre peuple. Tandis que al-bara, c'est le désaveu, c'est la haine, c'est le fait de ne pas aimer, hein, dans ton cœur, la haine dans ton cœur pour le kufr et les gens qui défendent le kufr, même s'ils font partie des gens qui sont proches de toi, même s'ils font partie de ta famille, hein, même s'ils font partie de ta proche famille, hein, ils sont pas tes alliés, donc encore moins s'ils sont éloignés, hein. Et le cheikh il dit donc falwala ou al-bara, hein, il dit falwala والمحبة والنصرة إنما تكون لأهل الإيمان ولو لم يكونوا من الأقارب لأن الإيمان أقوى من كل ما عداه من الأواصر النسبية والوطنية والقومية. Il dit donc que al-wala, qu'est-ce que ça veut dire en arabe? Ça veut dire l'amour, La proximité et le support et la défense. C'est ça que ça veut dire al-wala. Ou c'est ce que ça implique. Hein? Donc quand tu dis que quelqu'un il est wali, hein, ça veut dire que ça veut dire que c'est ton allié. Tu l'aimes, tu veux être proche de lui, tu veux le défendre, hein, tu veux le supporter. Donc ça c'est ce que ça implique. Et donc, cette wala, elle est uniquement pour les gens de la foi. Donc ça n'a pas rapport avec d'autres intérêts parmi les intérêts de la dunya ou des caractéristiques parmi les caractéristiques nationalistes ou les caractéristiques ethniques, hein, de langue ou de couleur ou de d'autres choses. Non, tu dois aimer par rapport à ta foi et fondamentalement par rapport à ta foi. Et le cheikh explique que tu dois aimer, même si des gens qui ne sont pas de ta famille ou de tes proches ou de ton pays ou qui ne parlent pas ta langue, tu dois les aimer en Allah si ce sont des croyants. Il dit parce que le lien de la foi, il est plus fort que tout ce qui est en dehors de la foi. Parmi les liens de parenté, les liens nationaux, les liens de nationalité, les liens de, hein, de patrie ou de contrée ou de pays ou des choses de ce genre. Tu voulais dire quelque chose? Non, ça va. Oui. Le verset 196 dans Sourate Al-A'raf et l'autre c'était le verset 55 dans Sourate Al-Ma'ida. Wafika barak. Le cheikh il dit Fal-Kuffar. ولو كانوا من الأقارب أو من المواطنين أو المعاهدين فلا يجوز أن يتخذوا أولياء ولا تجوز محبتهم من دون المؤمنين قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. Donc le cheikh il a cité plusieurs versets. Premièrement, il explique que les kuffars, même s'ils sont les plus proches de nous dans les liens de parenté ou dans la nationalité ou dans la citoyenneté ou que ce soit des koufars avec qui on a des liens de d'entente, hein, par rapport à des engagements ou des ententes ou des traités qui ont été signés entre nous et eux, malgré ça, il n'est pas permis pour nous de les prendre ou de les considérer comme étant des awliya, c'est-à-dire de les aimer, hein, et de les de vouloir leur proximité. Il n'est pas permis d'aimer en dehors des croyants. Et il mentionne à ce sujet plusieurs versets, donc on va lire les versets que le cheikh il a cités, et c'est des versets importants et que les musulmans doivent comprendre parce que ça fait partie de la révélation d'Allah, et on doit prendre notre guidance dans la façon dont on vit et la façon dont on pense. La façon dont on croit, on doit prendre cette guidance-là de la révélation d'Allah et non pas d'autre chose. Donc ici on voit par exemple dans cette sourate qui s'appelle Al-Mumtahana, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement l'exemple d'Ibrahim alayhi salam, et il mentionne par rapport à son exemple comment lui-même il a agi avec son peuple, hein, son propre peuple, et comment nous on doit prendre son exemple comme un modèle par rapport à cette attitude là qu'il a eue avec ce peuple, avec son propre peuple. Donc il cite le verset 4 dans sourate Al-Mumtahana dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce qui signifie certes vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim alayhi salam et en ceux qui étaient avec lui. Donc ceux qui ont cru avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions. Hein? Il dit, nous vous renions entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Donc ça c'est l'exemple de Ibrahim alayhi salam, et il n'a pas déclaré cette parole à des étrangers, hein, ou des gens d'un autre peuple. Non, il a déclaré ça à son propre peuple, à son père, et à sa famille, et à ses proches. C'est comme ça qu'il s'est adressé à eux. Donc, il leur a dit quoi ? Il leur a dit, certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham et ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, qu'est-ce qu'il a dit à son peuple ? Inna bura'a minkum. Nous vous désavouons. C'est-à-dire, on déclare que on est innocent de vous. On n'a aucune responsabilité devant Allah au jour de la résurrection si vous avez choisi l'égarement. Parce que vous avez choisi la mécréance. Donc, on se désavoue de vous. On se désavoue. Et il dit, et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Donc c'est pas seulement de vous qu'on se désaveu, qu'on fait ce désaveu là, ou par rapport à vous, mais aussi par rapport à ce que vous adorez en dehors d'Allah. Tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, que ce soit une statue, une idole, que ce soit un prophète ou un ange, que ce soit un arbre ou une pierre, que ce soit le soleil ou la lune, que ce soit un djinn ou un être humain, peu importe qu'est-ce que vous adorez en dehors d'Allah, Donc, que ce soit Jésus ou Marie ou la croix ou les prêtres ou les moines ou les rabbins ou des choses de ce genre, on se désavoue de ça. Que ce soit une constitution inventée ou fabriquée par l'homme ou des lois humaines ou des systèmes humains que vous obéissez dans, qu'est-ce qui contredit la révélation d'Allah, on se désavoue de ça. Et ça, c'est le discours de tous les croyants vis-à-vis des nations ou des peuples qui ne sont pas croyants. Comme si par exemple moi je suis né au Canada, je suis né ici à Montréal, j'étais dans le kufr, j'étais dans le christianisme et Allah m'a guidé à l'islam. Maintenant, qu'est-ce que je dis à mon peuple, qu'est-ce que je dis à cette société qui est une société de mécréance? Eh bien, je leur dis la parole d'Abraham, la même chose. Je vous désavoue, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Qu'est-ce qu'ils adorent, les citoyens canadiens qui ne sont pas musulmans? Ils adorent Jésus, ils adorent Marie, ils adorent, parmi eux il y en a qui sont bouddhistes, ils adorent Bouddha, parmi eux il y en a qui sont amérindiens, ils adorent les esprits, les totems, les trucs de ce genre, parmi eux il y en a qui sont hindous, ils adorent les divinités de l'Inde et toutes les statues et les idoles. Parmi eux, il y en a qui sont athées et qui croient en la matière et uniquement en qu'est-ce qu'ils peuvent voir ou toucher avec leur sens. Ils sont donc des kuffars athées. Il y en a d'autres qui croient en le judaïsme et qui renient la foi en les messagers, ou des choses de ce genre. Donc, tous ceux-là, je me désavoue d'eux et de tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et nous vous renions, et entre vous et nous, il y a cette inimité et cette haine qui seront déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Ça, c'est le discours des musulmans. C'est le discours des prophètes. C'est le discours d'Abraham. C'est pas le discours des nouveaux, aujourd'hui, là, des imams dans les mosquées maintenant, qui adressent un discours aux kuffars. Tu te demandes, ces gens-là, c'est quoi leur intention ou c'est quoi leur but? Est-ce qu'ils sont en train d'appeler les gens à l'islam ou bien ils sont eux-mêmes en train d'appeler les musulmans à devenir juifs ou chrétiens? On se demande la question quand on les entend. Justement, il y a quelques jours, il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo d'un des soi-disant imams à Montréal. Dans sa vidéo, il dit, moi, j'ai choisi le Canada, je suis canadien, je suis content que mes enfants vont vivre ici, ils vont être canadiens aussi, ils vont vivre dans la divergence, des différences de croyances et de religions. J'ai dit, mais comment un imam il parle comme ça? Il dit, j'ai quitté mon pays, l'Algérie, je suis venu ici pour vivre comme ça, dans le kouf, dans le shirk, chez les Yahoud ou les Nasara. Yani est-ce que lui, quand il dit ce discours-là, est-ce qu'il est sincère envers Allah? Est-ce qu'il dit le haq que Allah a ordonné de dire? Ou bien plutôt il est en train de faire un discours complaisant pour se faire accepter ou se faire tolérer, hein, dans une société qui n'est pas musulmane par les gens de ce pays? Donc c'est pas ça que Allah nous a ordonné. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à son peuple à Mecca pour les appeler à l'islam, son but, le prophète, c'était pas de dire aux gens de Quraysh, aimez-moi, acceptez-moi, hein, acceptez-moi, aimez-moi pour moi. C'était pas le but. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son but, c'était pas de se faire aimer. Aujourd'hui, c'est ça. Tout ce que tu vois dans les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, c'est toujours les gens disent mets un like, hein, mais dis-moi, oui c'est ça, like moi, hein, aime moi, mais dis que tu aimes ce que je dis. Donc le but, c'est de se faire aimer. Si quelqu'un, son but, c'est de se faire aimer à tout prix, ça veut dire qu'il va tout dire, il va toujours dire des choses pour faire en sorte que ce soit des choses que tout le monde accepte, que tout le monde aime. Il ne va pas dire aux gens des choses qui sont vraies et qui risquent de les choquer ou de les fâcher ou de les déranger. Or, les messagers d'Allah, ils ne sont pas venus sur terre pour enseigner aux hommes ou dire aux hommes ce que les hommes veulent entendre ou pour dire aux hommes ce que les hommes aiment. Mais ils sont uniquement venus pour leur transmettre le message de leur Créateur et de leur Seigneur, et de transmettre le message tel qu'il a été révélé, pas de l'adapter au goût et aux tendances de leur peuple ou des gens qui y croient pas. Parce que si tu agis de cette manière-là, ça veut dire que tu es en train de travestir le message, de trahir le message. Et ça, c'est quelque chose que les sahaba n'ont jamais fait. Les sahaba, ils ont été si fidèles et sincères à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son message, et ils ont adopté cette méthodologie là et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, hein, qui est célèbre de Al-Arbad ibn Sariya, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin min ba'di, donc accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Donc celui qui n'a pas pris cette voie là ou cette méthodologie, eh bien c'est clair qu'il n'a pas suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme le cheikh aussi il l'explique dans plusieurs occasions, le fait que tu vas appeler à ça, al-wala wal-bara, à aimer et à détester pour Allah, ça ne veut pas dire non plus que tu vas te permettre de faire du tort ou de l'injustice aux kuffar et aux mushrikin, non, hein? Et en particulier ceux d'entre eux qui sont en paix et qui ont une entente de paix avec les musulmans. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Justement, c'est dans la même sourate. C'est dans la même sourate que celle qu'on a lue dans, c'est-à-dire sourate al-Mumtahana, le verset 8. Hein, le verset 8 dans cette sourate, c'est-à-dire sourate al-Mumtahana, le verset 4, il y a l'exemple de la parole de Ibrahim, comment il s'est désavoué de son peuple et de ce que son peuple adore en dehors d'Allah. Puis regardez qu'est-ce qu'il dit dans le verset 7. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 7, عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةٌ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il se peut qu'Allah établisse de l'amitié, de l'amour entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Il se peut qu'Allah établisse de l'amour, hein, entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et même dans l'autre verset, avant le verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit hatta tu'minu billahi wahda. Hatta tu'minu billahi wahda. C'est-à-dire le désaveu envers les mouchriquins et les kuffars, c'est pas un désaveu éternel ou absolu, mais Allah, il a mis une limite, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. C'est-à-dire que du moment que les mouchriquins et les kuffars acceptent la foi et acceptent l'islam et disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », cette animosité et ce désaveu, il est automatiquement éliminé. C'est-à-dire que là, cette situation d'animosité, elle est remplacée automatiquement par une situation d'amour et d'alliance. Hein? Et dans le verset 7, c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il se peut qu'il établisse de l'amour entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Comment ? Par le fait qu'ils acceptent l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de les guider, ces mouchriquins-là. Et comme de fait, hein, la plupart de ces mouchriquins qui étaient à Mecca, qui étaient des ennemis de l'islam et du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a eu la conquête de Mecca, ils ont tous accepté l'islam. Ils se sont tous convertis à l'islam par la suite. Donc ça veut dire que l'animosité et la haine qui étaient dans leur cœur, elle a été remplacée par de l'amour à cause de la foi. Hein? Donc c'est pour dire que pensez pas que ceux avec qui vous avez de l'animosité à cause de la foi aujourd'hui, qu'ils vont nécessairement rester dans cette situation d'animosité-là, parce que Allah est capable de les guider. Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'ouvrir leur cœur et de les faire rentrer dans l'islam. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit même dans le verset يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Hein? Lorsque vient la victoire d'Allah, إذا جاء نصر الله والفتح, quand vient le support d'Allah et la victoire, et que vous voyez les gens entrer dans l'islam en groupe, hein? Par groupe, les gens rentrent en islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire rentrer des gens dans l'islam par groupe, hein, et en grand nombre. Et c'est déjà arrivé dans le passé et ça continue à arriver. Les gens continuent à se convertir tous les jours à l'islam. Hein, alhamdoulillah. Et donc cette animosité, elle disparaît. De la même manière que quelqu'un qui était musulman, croyant, et qui a abandonné la foi et qui est tombé dans la mécréance ou dans le kufr ou dans le shirk, il quitte cette position ou cette situation d'amour et d'alliance, il devient un ennemi. Parce qu'il rejette la foi, il rejette, hein, le tawhid. Il devient un mushrik ou un kafir. Donc, cette animosité, elle vient se remplacer cet amour qui existait entre lui et nous par rapport à, hein, cette foi qu'il a laissée. Naam. Le verset 8, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi, c'est ça que je voulais dire, Allah ne vous défend pas d'être Allah subhanahu wa ta'ala, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah ne vous empêche pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Hein? Car Allah aime les justes. Donc tu dois être juste envers les mouchriquins et les kuffars, même si ils sont pas musulmans, ça te justifie pas ou ça ne veut pas dire que tu as le droit de leur faire du tort ou de l'injustice. Naam. On se désavoue d'eux et de leur croyance. Parce que leur croyance, c'est des croyances de kufr et de shirk. Mais en ce qui concerne le comportement et l'attitude avec eux, ça doit être un comportement et une attitude de justice. Et comme les ulama ils disent, on les traite de la même manière qu'ils nous traitent et on leur remet le bien qu'ils nous montrent. Donc s'ils nous montrent du bien, on leur montre du bien. S'ils nous traitent avec justice et ils nous montrent un bon comportement, on agit de la sorte avec eux. Non, mais ça, c'est s'ils deviennent croyants. Mais tu veux dire que il n'y a pas de mawadda qui est mentionné dans le verset 8. Parce que Allah il dit la yanhaakum 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah il n'a pas dit an tuhibbuhum ou an tawadduhum. Non, il a dit an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Et al-birr, c'est la bonté. Wa tuqsitu al-qist, c'est al-adl. Donc d'être bon et d'être juste. C'est ça que Allah nous permet envers les mushrikines qui ne nous ont pas combattus et qui ne nous ont pas expulsés de nos demeures, d'être bons et d'être justes. C'est quoi la différence entre bon et juste? On doit être les deux. On doit être bon et juste. Ben, la bonté, c'est-à-dire de leur parler, de leur dire une bonne parole, d'avoir un bon comportement, hein, de pas leur faire du tort, hein. Être bon, tout le monde sait qu'est-ce que c'est en général, c'est de respecter les respecter dans leur personne, dans leur bien, dans leur sein. Tu vas pas transgresser contre eux, tu vas pas leur faire du tort, puis tu les appelles à l'islam, hein, et si tu les appelles à l'islam, ça c'est le plus grand bien que tu peux leur faire. Il n'y a pas un plus grand bien que ça. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 22 que le cheikh a mentionné, Allah ne vous interdit pas, ou plutôt il dit, vous ne trouverez pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier et qui aime ceux qui opposent Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou leur famille. Ceux-là, Allah a prescrit la foi dans leur cœur. Donc ça veut dire que le croyant qui croit en Allah au jour dernier, il ne peut pas aimer ceux qui opposent Allah et son messager. Ce n'est pas possible. Et Allah, il ne dit pas que c'est interdit. C'est-à-dire, ne faites pas ça. Il dit, « La tajidu qawman ». C'est-à-dire, « La tajid ». C'est-à-dire, même si tu... C'est-à-dire, c'est comme si pour dire, « T'en trouveras pas ». Tu peux pas trouver ça parce que ça existe pas. C'est comme si c'est pour nier la chose. Et la négation, c'est plus fort que l'interdiction. Hein? Parce que c'est comme si Allah te disait, c'est pas possible. C'est soit que la personne, elle est croyante et qu'elle les aime pas parce qu'ils opposent Allah et son messager. Ou que si elle dit qu'elle est croyante puis qu'elle les aime, c'est parce qu'en réalité, elle est pas un vrai croyant. Il y a un problème. Il y a une contradiction. Et il dit ensuite, le cheikh, dans le verset 23 dans sourate Tauba, Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. Le verset 23 dans sourate Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: Ô vous qui avez cru, ne prenez pas vos pères et vos frères comme alliés, hein, c'est-à-dire de les aimer et de les supporter et d'avoir la proximité avec eux, alors qu'ils préfèrent la mécréance à la foi. Alors qu'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et ça, c'est pour dire en fait aussi que le croyant, même avec ses proches, il ne va pas les préférer si ce sont des kuffars, il ne va pas les préférer ou il ne va pas les aimer et les prendre pour alliés, même si c'est ses proches parents. Donc ça, c'est important de tenir compte de ces versets-là. وإل دي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في أقرب الناس نسبا إليه إن آل فلان ليسوا لي بأولياء لماذا؟ لأنهم كفار فلم تكن تنفعهم قرابة النسب والرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا قريشا وخص وعم قال يا معشر قريش يا بني هاشم يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صفية عمة رسول الله عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. Donc il mentionne ici, il dit que ici le prophète صلى الله عليه وسلم dans le hadith qu'on a lu au début, il mentionne aux gens qui sont parmi ceux qui ont le plus proche lien de parenté avec lui, il dit telle famille ne sont pas mes alliés, hein, telle famille, en parlant des gens qui sont des proches avec lui dans sa famille, ils ne sont pas mes alliés. Pourquoi? Parce que ce sont des kuffars. Et le lien de parenté ne peut donc pas leur profiter. Hein? Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a invité les gens de Quraysh à la foi et à l'islam, il a dit des choses, il a parlé en général et il a parlé en particulier. Il a dit, ô assemblée de Quraysh, ô famille de Hashim, Bani Hashim, hein? Et il a spécifié ensuite en mentionnant des personnes en particulier parmi les gens de sa famille et de ses proches. Ô oncle du messager, Abbas. Ô Abbas, oncle du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ô Safiya, hein, tante du messager. Ô Fatima, la fille de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, sauvez-vous vous-même, hein, vos âmes de la mécréance, de l'enfer, car je ne peux rien vous profiter, hein, je ne peux rien vous profiter, hein, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant dire que je ne peux pas vous sauver du châtiment d'Allah au jour de la résurrection si vous n'êtes pas croyant. Et ça vient en même temps pour réfuter l'idée de certains qui pensent que le fait d'avoir des liens de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou avec un homme pieux, ou avec un wali, ou avec un sheikh ou un imam, que ça peut sauver quelqu'un de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses propres parents et des gens de sa famille, je peux rien faire pour vous devant Allah si vous n'êtes pas des mu'minines. Donc ça, c'est une preuve claire à ce sujet-là. Et c'est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, selon Aïcha, radiyallahu anha. Ensuite, le shaykh, il dit, فَلَمْ تَنْفَعُهُمْ قَرَابَتُهُمْ مِنَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم بِدُونِ عَمَلٍ صَالِحٍ وإنما يشترون أنفسهم من عذاب الله بالإيمان وبمدى قربهم من المؤمنين وبالعمل الصالح وعبادة الله وحده لا شريك له فهذا فيه رد على الذين يفتخرون بالأنساب دون أن يكون لهم رصيد من الإيمان الحقيقي الذي ينتج عنه العمل الصالح. Donc le cheikh il dit, et donc leur proximité dans la parenté qu'ils ont avec le messager sallallahu alayhi wa sallam ne leur sera d'aucune utilité sans les bonnes œuvres. Et vous savez que les bonnes œuvres, les mouchriquins, ils peuvent en faire parfois. Mais les bonnes œuvres, s'il n'y a pas de foi, elles n'ont aucune valeur. Donc c'est pas juste de faire le bien, parce que vous savez, il y a des groupes comme par exemple les francs-maçons ou la franc-maçonnerie qui appellent à cette idéologie-là, c'est-à-dire que ils disent c'est pas important la religion de la personne, hein, ou la croyance, l'important c'est les actions, si la personne elle est bonne, c'est ça qui est le plus important. Donc même si la personne par exemple elle est juive ou hindoue ou bouddhiste ou chrétienne ou athée ou musulmane, c'est pas ça l'important. C'est l'action de la personne si elle fait le bien. Et ça, c'est totalement faux. Parce que la personne qui fait le bien, si elle n'est pas croyante, si elle n'a pas la bonne aqida, Allah ne va même pas accepter ses œuvres. Même si elle a fait les plus grandes œuvres au monde, même si elle a fait les plus bons, même si elle avait le meilleur comportement au monde, si elle n'avait pas une aqida qui est bonne, si elle n'avait pas une bonne croyance, si elle n'était pas sur le tawhid, aucune de ses œuvres n'aura de valeur. Et ça, il y a plein de versets dans le Coran qui le confirment et qui le mentionnent. Il y en a des dizaines et des dizaines de versets à ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne par exemple, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. S'ils avaient commis du shirk, Allah aurait annulé leurs bonnes œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans d'autres versets, par exemple, attends, c'est quoi le verset? Si je me rappelle, ça dit, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Donc on a révélé à toi ainsi qu'à ceux qui étaient avant toi que si tu fais le shirk, tes œuvres seront rendues vaines et tu serais du nombre des perdants. Il y a aussi d'autres versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها هباء منثورة. Oui, dans sourate Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne yani, que toutes les œuvres qu'ils ont faites, ils les ont présentées et elles ont été transformées en poussière éparpillées par le vent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ. Et dans un autre verset, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ. L'exemple des koufars, leurs actions sont comme de la poussière, soufflée par le vent, dans un jour de tempête. Ils vont rien profiter de ce qu'ils ont fait. Et dans l'autre verset, l'exemple de l'action des koufars, c'est comme que sarab. Sarab, c'est un mirage. Le mirage. Quand les gens sont dans le désert, ils sont assoiffés, ils regardent à l'horizon, ils voient. Ils pensent qu'ils sont en train de voir de l'eau. Puis quand ils arrivent, ils voient qu'il n'y a que du sable, il n'y a pas d'eau. C'est ça l'exemple des œuvres des mouchriquines. Ils s'imaginent avoir fait plein de bonnes œuvres. Puis quand ils arrivent devant Allah au jour de la résurrection, ils constatent que leurs œuvres ont été vaines et nulles. Pourquoi ? Parce que leur action n'était pas pour Allah. Leur action n'était pas établie sur la bonne aqida. Leur action n'était pas établie sur le tawhid d'Allah. Donc, c'est pas uniquement juste de dire faire des bonnes œuvres, mais avoir la foi qui vient avec, qui fait en sorte que justement ces œuvres-là seront valides, et en même temps aussi qui va les pousser justement à vouloir aller faire ces bonnes œuvres-là. Et le cheikh il explique, il dit donc que la seule manière par laquelle les koufars, les mouchriquins peuvent se sauver eux-mêmes du châtiment d'Allah et racheter leur âme du châtiment d'Allah, c'est avec la foi et par la suite de leur proximité avec les croyants et les bonnes œuvres et l'adoration d'Allah seul sans associer. Et il y a dans ça également une réfutation de ceux qui se vantent d'avoir des liens de parenté avec un tel ou un tel parmi les hommes pieux, alors qu'ils n'ont pas d'économie ou bien ils n'ont pas de base de foi réelle qui peut faire en sorte qu'ils puissent produire ces bonnes œuvres là. Et le cheikh il dit ensuite, je pense que j'ai dépassé le temps, mais en tout cas, c'est pas grave. Il dit فالموالاه والمعاداة إنما تكون على الإيمان وعدمه لا على النسب فقط. ولذلك قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وهذا الحديث يمشي على هذا الأصل، فقوله صلى الله عليه وسلم إن آل فلان يعني ناسا من قرابته صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ليسوا لي بأولياء، أي لا موالاة بيني وبينهم ما داموا على الكفر وإن كانوا أقارب. ولكن في آخر الحديث قال ولكن لهم رحما أبلها ببلالها. ويستنبط منه أنه تجوز صلة القريب الكافر بالمال ومكافأته على إحسانه، فإن هذا ليس من الموالاة وإنما هو من باب صلة الأرحام والتواصل بين الأقارب بالمعروف. وهذا لما جاءت والدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي كافرة إلى ابنتها أسماء الصحابية الجليلة تريد منها عطاء، فسألت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن أمها جاءت وهي راغبة يعني تريد الصلة، فقالت أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. Donc le cheikh il mentionne dans ce hadith, comme on a dit, hein, comme par rapport à ces versets qu'on a lus, hein, au sujet de l'alliance et du désaveu, de l'amour et de la haine par rapport à la foi, hein, ou par rapport à l'absence de foi, que ça ne doit pas être établi sur les liens de parenté seulement, mais ça doit être basé primordialement et fondamentalement sur l'iman. Et il a cité les deux versets qu'on a lus tout à l'heure, 22 dans Surat Al-Mujadala et le verset 23 dans Surat Al-Tawbah. Et oui, et le cheikh dit donc que ce hadith là il suit cette règle là puis il dit que c'est sur cette base là que quand il a dit telle famille, en parlant déjà de ses proches parmi les gens de Bani Hashim, ne sont pas de mes alliés, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, en voulant dire que il n'y a pas de lien de parenté entre moi et eux du moment qu'ils sont dans les kuffar et qu'ils sont dans le kufr. Même s'il y a des liens de parenté avec eux, hein, il n'y a pas d'alliance entre moi et eux, il n'y a pas d'amour, hein, et de proximité. Mais par contre, dans la fin du hadith, il y a une autre mention que le cheikh il n'avait pas mentionné avant, qui dit walakin lahum rahiman abulluha bibalaliha. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on traduit littéralement, c'est-à-dire qu'ils ont un lien de parenté quand même que je dois, je dois la mouiller je dois la garder mouillée par sa, par l'eau qui vient avec. En voulant dire que je dois entretenir cette relation-là par rapport aux liens de parenté. Donc tu dois les garder, ces liens-là. Et il dit, on peut extraire ou tirer de cette partie du hadith-là qu'il est permis de garder les liens de parenté. Non pas qu'il est permis seulement, mais que c'est même obligatoire de garder les liens de parenté avec des proches qui sont des koufars, et de les aider s'ils ont besoin d'aide financière et de leur remettre le bien qu'ils nous ont montré, et que ça n'entre pas dans al-muwalat qui est interdite, hein, le fait de les aimer ou de les prendre pour alliés, non, c'est pas, ça rentre pas là-dedans, parce que ça fait partie de garder les liens de parenté et d'entretenir les bonnes relations avec les proches, hein, comme l'exemple de Asma, la fille de Abi Bakr radiyallahu anhuma. Lorsque sa mère, qui n'était pas musulmane, qui était une mushrika, elle est venue pour la voir, pour lui demander un don ou de l'aide quelconque, et elle est venue donc en demandant par les liens de parenté de lui donner. Et Asma radiallahu anha, elle a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je dois garder le lien de parenté avec elle? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il lui a dit, na'am, sili ummaki, garde le lien de parenté avec ta mère. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ça nous indique l'importance que même tes proches, tes parents, ils sont des koufars, des chrétiens, des juifs, des athées, des hindous, des bouddhistes, peu importe la voie de kouf ou de shirk dans laquelle ils sont. Du moment que c'est tes parents, tu dois avoir avec eux le bon comportement et leur obéir dans le bien, hein, et bien agir avec eux. Et que ça ne veut pas dire que tu n'as pas respecté Al-Wala ou Al-Bara, et que tu n'as pas aimé ou détesté en Allah. Non, ça ne veut pas dire ça, parce que ça c'est obligatoire dans l'islam. Et le cheikh il donne un exemple, ensuite il dit وَهَذَا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَلَى وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فدل على أن الإحسان إلى القريب الكافر ليس من الموالاة، وإنما هو حق له بموجب القرابة والرحم فقط. Donc le cheikh il cite ensuite le verset dans sourate Luqman, versets 14 et 15, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses parents, son père et sa mère. Sa mère l'a porté peine après peine, et elle l'a allaité pendant 2 ans, hein, et donc d'être reconnaissant envers moi et envers tes deux parents, car c'est vers moi que sera le retour. Et si il te force d'une façon quelconque à associer avec moi ou à faire le shirk, hein, en associant avec moi quoi que ce soit, hein, dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'obéir aux parents qui ne sont pas musulmans, ou même s'ils sont musulmans, mais on n'a pas le droit de leur obéir dans ce qui est interdit dans l'islam ou dans ce qui est contraire à l'islam. Donc s'ils veulent te dire fais le shirk ou fais le kufr ou bien fais un péché, tu n'as pas le droit de leur obéir dans cela. Mais dans le reste des choses de la dunya qu'ils te demandent, alors agis, hein, et un bon comportement avec eux, sois un bon compagnon pour eux, hein, et suis le chemin de celui qui est retourné repentant à Allah. Hein. Donc ça c'est la preuve que de faire preuve de bonté envers le proche, hein, le proche parent qui est kafir, ça ne fait pas partie de l'alliance qui est interdite en islam vis-à-vis du kafir, mais plutôt ça fait partie du droit, hein, qui lui revient par rapport au lien de parenté et le lien de sang qu'il a avec nous seulement. Le cheikh il a cité ce hadith là, il dit: ولهذا لما جاءت والدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي كافرة إلى ابنتها أسماء الصحابية الجليلة تريد منها عطاء، فسألت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن أمها جاءت وهي راغبة، يعني تريد الصلة، فقالت أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. Mais ça, c'est pas le nas du hadith lui-même, mais c'est le cheikh, il paraphrase la narration, tu vois. Paraphraser, ça veut dire redire les choses, mais dans ses propres mots. C'est-à-dire, il paraphrase le hadith, il redit le hadith, mais dans ses mots à lui. Tu comprends? C'est pas le texte du hadith. Si tu retournes à Sahih al-Bukhari ou Muslim, peut-être que la narration est un peu différente. Oui. Oui. Même si ton père, supposons que ton père ou ta mère, ce sont des chrétiens ou des juifs, ou des athées, ou des hindous, ou des bouddhistes, ou des gens qui ne croient pas en Allah, tu dois être bon et obéir à tes parents dans le bien. Et même si c'est des musulmans, mais que ce sont des musulmans qui sont pas bien guidés. Par exemple, c'est des musulmans, mais ils ont des idées. Par exemple, c'est des chiites, ou bien c'est des soufis, ou bien c'est des gens qui ont des péchés. Tu vois, ils veulent vivre comme les koufars, et ils font pas attention à qu'est-ce qui est halal ou haram, et ils pensent qu'à la dunya. Hein. Tes parents, ils sont dans cette catégorie-là. Tu dis, ah, mes parents, ils pratiquent pas l'islam, donc je veux pas les écouter. Non, tu dois les respecter, tu dois leur obéir dans le bien. Hein? Tu dois pas dire, ah, parce que ce sont pas des pratiquants musulmans, yani, je veux rien savoir d'eux. Non, non, non. Tu dois écouter et respecter, obéir tes parents dans le bien. Et par contre, s'ils te demandent de faire quelque chose qui est haram dans l'islam, tu dois leur dire, hein, tu dis à mes parents, je vous respecte parce que vous êtes mes parents. Allah il m'a ordonné de vous obéir dans le bien. Et demandez-moi tout ce que vous voulez. Je vais le faire selon ma capacité. Hein? Je vais le faire selon ma capacité. Par contre, si vous me demandez de faire quelque chose que mon Seigneur m'a interdit de faire et qui est interdit dans le Coran ou dans la Sunna, alors à ce moment-là, je ne pourrai pas vous obéir ou faire ce que vous me demandez. parce que Allah me l'a interdit. Alors, tu dis, dans ce cas-là, s'ils disent, nous on connaît, si tes parents, ils te disent, on connaît mieux le Coran et la Sunna que toi, tu leur dis, et dans ce cas-là, les ulama de l'islam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils connaissent, et les sahaba, ils connaissent mieux le Coran que nous tous. Et eux, ils ont clarifié ces choses-là. Donc, c'est comme par exemple quelqu'un qui dit, moi je suis telle personne parce que lui il a plus de connaissances. Mais si peu importe qui il est, même si c'est le plus savant parmi les hommes après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il peut se tromper, il n'est pas infaillible. Donc il n'y a pas d'obéissance qui est obligatoire à une créature après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui serait absolu, excepté si c'est en accord avec le Coran et la Sunna. D'accord? Wallahu ta'ala a'lam. Oui. En tout cas, je vais terminer le cours parce que on a vraiment dépassé. Mais après, tu pourras poser ta question. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.